protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.
Bonjour à tous et bonjour Olivier, Olivier Villebrun.
Oui, c'est ça. Bonjour Yolande.
Voilà, que je reçois ce matin pour parler de son engagement. Alors, on va voir ce qu'il fait. Bah, vous pouvez peut-être vous présenter rapidement dans votre fonction. Mmh. Et puis après, on verra votre background.
D'accord.
Comme on dit.
Ok. Donc, j'ai 47 ans. Je suis marié. J'ai pas d'enfant. Et en fait, je suis pasteur depuis 7 ans. Et surtout, je suis aumônier de prison aussi depuis 6 ans, un petit peu plus.
Voilà. Alors... On va voir, vous êtes d'origine protestante ou pas du tout ?
Non, pas du tout. Alors, ma famille, ils sont catholiques. Toute ma famille, mes parents, grands-parents des deux côtés. D'ailleurs, ils sont très pratiquants. Donc, j'ai grandi dans le milieu catholique depuis mon plus jeune âge. Et du coup, vers l'âge adulte, bon, je me posais des questions.
Alors, on va y venir, voilà.
Et c'est après que je suis devenu, voilà, que j'ai rejoint... plutôt le
côté protestant. D'accord.
C'est ça.
Donc, l'éducation, catéchisme,
voilà, exactement,
messe,
communion, baptême, communion, première communion, deuxième communion, confirmation.
Oui.
Ouais, j'ai tout fait.
D'accord. Et ça ne vous satisfaisait pas complètement
si,
ou à
si.
L'époque si
c'était... Ah si, ça me satisfaisait. Après, j'ai continué, contrairement à mon frère, par exemple, qui a arrêté. Moi, ça m'a toujours intéressé d'aller à l'église. J'avais toujours quelque chose par rapport à Dieu.
Ouais.
Ça m'intéressait. Puis j'avais quand même une foi, oui, j'avais quand même une foi. Alors, c'était une foi d'enfant, d'adolescent. Mais oui, ça m'a toujours intéressé. J'ai toujours respecté Dieu et Dieu a toujours fait partie de ma vie, on pourrait dire.
D'accord. Et puis... brutalement, donc, le désir de faire autre chose, comment c'est venu, si c'est pas trop indiscret?
Non, alors après, quand j'ai eu 19 ans, j'ai fait une grosse dépression, et finalement, c'est là que ça a été un basculement dans ma vie, c'est que du coup, j'ai vécu 2-3 ans assez catastrophiques, et du coup, là, bon, Dieu était là, mais pour moi, Dieu était lointain, il pouvait pas trop s'occuper de mes affaires, donc du coup, c'était un moment où je me suis retrouvé seul avec moi-même, en fait. Et bon, pour la faire rapide, finalement, je me suis battu pendant 2 ans contre cette dépression, en essayant de trouver des solutions pour m'en sortir, et j'arrivais pas. Et un jour, j'avais décidé d'abandonner, en fait. Bon, j'avais des pensées suicidaires, même si je l'aurais jamais fait, mais vraiment envie d'arrêter de vivre parce que c'était trop, trop dur. Et du coup, en désespoir de cause, une fois, je sais pas trop comment ça s'est passé, mais j'ai crié à Dieu en me disant peut-être que Dieu pourrait faire quelque chose pour moi, mais sans aucune certitude. Mais je l'ai fait de tout mon cœur en me disant, bah, Dieu, si t'existes, faut que tu fasses quelque chose pour moi, que t'interviennes parce que sinon ça va être chaotique. Et quand j'ai fait cette prière, on va dire, c'était plus un cri du cœur qu'une prière, j'ai ressenti une grande paix, ça a été assez comme un foudroiement, comme si la foudre tombait sur moi. Et du coup, là, j'ai su que ce jour-là que Dieu existait vraiment. Avant, j'espérais qu'il existait, mais ce jour-là, j'ai su qu'il existait. Et j'ai été rempli de paix, j'ai ressenti beaucoup d'amour. Ça m'a bouleversé. Et finalement, c'est là que j'ai commencé vraiment à connaître vraiment ce Dieu que j'espérais durant toute ma vie.
Et avant, vous n'avez pas essayé d'en parler avec des prêtres? Vous n'avez pas eu de secours de la religion établie?
Alors, c'est une bonne question. Alors, le prêtre où j'allais, il était assez âgé. Il y a plusieurs prêtres qui m'ont suivi. Mais disons, quand j'étais après à cet âge jeune adulte, j'avais plus trop d'intimité avec lui. Je ne le connaissais pas plus que ça.
Oui.
Et j'avais quitté aussi tous les milieux, justement, tout ce qui était catéchisme. À l'époque, quand j'étais ado, j'étais avec des responsables aussi chrétiens. On faisait des enseignements. Mais j'avais plus tout ça. Parce que du coup, à partir de 18 ans, j'avais plus d'amis chrétiens, en fait. Donc j'étais un peu seul avec... mes parents étaient chrétiens, mais sinon j'avais plus
trop. Et vos parents,
J'en ai parlé une fois avec mon père, parce que c'était quand même douloureux pour moi de parler de ça. Je cachais ce mal-être, je voulais pas que les gens le voient parce que j'avais honte.
Ouais.
Donc j'en parlais pas trop, mais quand même une fois j'en ai quand même parlé parce que c'était trop. Et mon père a pas trop compris, même ça c'était pas très positif. Du coup, je me suis dit, bon, ils vont pas comprendre. Et puis c'était compliqué à comprendre pour eux, parce que tout paraissait bien dans ma vie. J'avais l'impression, tout le monde pensait que je réussissais dans ma vie, dans mes études, dans ma vie relationnelle. Et pourtant, non. Donc du coup, personne ne pouvait vraiment le voir. J'en ai parlé aussi avec des amis. suis une fois allé voir un psychologue, mais pareil, ça s'est pas bien passé. Du coup, c'est pour ça que j'étais vraiment désespéré, que je me disais personne ne pouvait vraiment m'aider, me comprendre, ce qui était faux, hein. Mais à l'époque, c'est vraiment ce que je croyais.
Et alors, cette rencontre, puisque finalement, c'est une rencontre avec Dieu, enfin, c'est un, dialogue avec Dieu, ça a donné ses fruits tout de suite ou il y a eu encore une période difficile?
Alors, sur le coup, ça a été extraordinaire. Ça a duré quelques minutes et du coup cette paix elle a demeuré on va dire toute la soirée parce que c'était le soir que ça s'est passé et je pensais que du coup ma vie allait changer sauf que le lendemain ça allait encore bien, les jours qui ont suivi ça allait bien et puis plus le temps passait plus ça s'est estompé et style deux semaines après bon ça a baissé petit à petit, deux trois semaines après ben, j'étais de nouveau retombé dans ma dépression, enfin dans la dépression et finalement même quelques mois après j'ai carrément oublié cet événement, j'ai pas oublié Dieu, pour moi c'était sûr que Dieu existait mais c'est comme si rien n'avait changé en fait. Et donc ça a duré comme ça encore pendant plusieurs mois. J'allais quand même mieux parce qu'à l'époque j'avais le désir de prendre de l'alcool pour oublier tout ça et je ne l'ai pas fait du coup grâce à ça. Mais sinon le reste n'a pas trop changé. Et finalement, quelques mois après, je suis retombé encore très très loin dans la dépression. Et pareil, un soir, j'ai recrié à Dieu. Alors là, du coup, j'avais beaucoup plus d'espoir que la première fois parce que je savais que Dieu existait. Et de nouveau, j'ai été visité par ce Dieu d'amour. Et ça m'arrivait deux, trois fois pendant une année, tous les, je sais pas, 4, 5, 6 mois, vraiment quand j'étais au fond du trou. Et à chaque fois, Dieu était fidèle, à chaque fois, Dieu était là. Mais le problème, c'est que je savais vivre cette rencontre avec Dieu dans les moments critiques.
Oui.
Mais dès que ça allait un petit peu mieux, je laissais tomber Dieu.
Il n'y avait pas d'institution, il n'y avait pas d'aide, il n'y avait pas de communauté à côté.
C'est ça. J'étais tout seul, en fait, avec, avec le Seigneur. Et, et du coup, je ne savais pas trop comment faire, en fait. Hein.
Et vous avez commencé à lire la Bible ou à entreprendre de connaître mieux ce Dieu qui vous avait visité?
Tout à fait. Alors, justement, une fois en sortant de l'église, de la messe, ils distribuaient des petits livrets, ça s'appelait, ça s'appelle toujours « Prions en église ». C'est des petits livrets où chaque jour, en fait, il y a des textes de la messe, tout ça, des prières. Et je l'ai reçu gratuitement, du coup, je l'ai pris. Et du coup, j'avais mon petit rituel tous les soirs avant de coucher. Ouais. Je lisais, ça a duré peut-être 5 minutes, 10 minutes avant de me coucher. Donc, je lisais les évangiles, des passages de la Bible, des petites prières. Et du coup, ça me nourrissait. Et ça me nourrissait beaucoup plus que ce que j'imaginais. Parce qu'à l'époque, moi, c'était un peu comme un rituel, un peu... Pas la superstition, je dirais pas jusque-là. Mais c'était un peu mon petit temps, on va dire, intime avec Dieu. Mais je voyais pas trop de fruits. Si, sur le coup, des fois, ça me faisait un petit peu du bien. Mais c'était rien d'extraordinaire. Et finalement, après coup, j'ai réalisé que c'est toutes ces soirées-là de 5 minutes avec, en lisant ces paroles de l'Évangile, et ben finalement, ça a fait grandir ma foi jusqu'à un moment donné où il y a quelque chose qui a débordé et qui a fait qu'il y a eu un basculement aussi, peut-être un an ou un an et demi après.
Et donc, vous étiez seul avec la Bible. La Bible, juste Nouveau Testament ou aussi...
Non, il y avait un peu... Bah, comme c'était, en fait, comme c'était la messe de tous les jours, il y avait des textes de l'Ancien Testament, aussi du Nouveau, des psaumes beaucoup.
Oui.
Après, il y avait des épîtres et puis l'Évangile. Donc, je lisais, mais c'était très court, hein, c'était quelques versets par-ci, par-là. Mais bon, ça a duré 5 minutes, 10 minutes, mais un petit peu tout, oui.
Et vous n'avez pas cherché à vous rapprocher d'une communauté à ce moment-là,
Alors,
par exemple, les protestants?
Non, comme j'étais dans une église catholique, pour moi, je connaissais pas, je connaissais les protestants de nom, mais je connaissais pas plus.
Vous étiez où géographiquement?
J'étais à un petit village qui s'appelle Saint-Jean-de-Védas, à côté de Montpellier.
Ah oui, d'accord, oui. Bah,
qui est connu, oui, pour ceux qui sont de Montpellier, connaissent.
Oui.
Et du coup, j'allais à la paroisse de Saint-Jean.
D'accord. Parce qu'il y a des protestants quand même dans le coin.
Oui, c'est vrai, mais moi, c'est vrai que c'est un milieu que je ne connaissais pas du tout. En plus, bon, j'étais pas d'origine de Montpellier, donc du coup, je connaissais pas trop l'historique de la région. Et, et du coup, non, je connaissais pas. Je connaissais, oui, une fois de temps en temps, il y avait un pasteur qui venait une fois dans l'année pour une semaine œcuménique avec. Voilà.
Oui.
Mais c'était très rare et c'était, du coup, j'avais pas trop de contact avec, avec ça. Par contre, ce qui s'est passé, comment j'ai rencontré le monde protestant, c'est que justement, ça ne me satisfaisait plus d'aller juste à la messe. Finalement, c'était quand même assez court, hein, la messe, c'était une heure par semaine. Puis, je n'avais pas trop de contact justement avec des chrétiens. Donc, je suis allé sur Internet.
Ouais.
Et c'est là que j'ai discuté avec, c'est là que j'ai découvert qu'il y avait d'autres chrétiens que les catholiques. Et du coup, j'ai découvert les protestants et je ne connaissais rien du coup au monde protestant. J'ai aussi rencontré des évangéliques, tout ça. Et c'est en discutant avec des chrétiens sur Internet que finalement...
Vous avez pu faire votre choix, là.
Pour moi, ce n'était pas un choix. Je voulais rencontrer des gens qui avaient vécu ce que j'avais vécu avec Dieu, qui connaissaient Dieu, qui pouvaient m'expliquer comment vivre cette relation avec Dieu au quotidien. Pas juste une fois tous les 6 mois, mais vivre quelque chose de fort. En fait, ce que j'avais vécu dans ma chambre, je voulais le vivre tout le temps.
Oui.
Mais sauf que je ne savais pas comment le faire. Et je me souviens, au bout d'un an après avoir fait cette rencontre avec Dieu, un an et demi, je me suis levé un matin et je me suis dit, Olivier, il faut que je vive ça, ce que j'ai vécu là deux ou trois fois dans ma vie, il faut que je le vive tous les jours. Mais je ne savais pas comment faire. Parce que quand j'étais désespéré, j'arrivais à crier à Dieu. Mais quand je n'étais pas aussi désespéré que ça, je n'arrivais pas.
Oui, puis c'est comme une relation à deux. On ne peut pas se communiquer seulement quand ça ne va pas.
C'est ça.
Il faut trouver un moyen de communiquer tous les jours.
C'est ça.
Donc, et alors, à partir de ce moment-là, quand vous avez trouvé des gens à qui parler, ça s'est éclairci.
Voilà, bah, du coup, j'ai discuté avec plein de gens. Alors, certains qui étaient un peu farfelus, il n'y a pas que des chrétiens, parce que c'était des gens... C'était...
Oui,
et,
mais farfelu, ce n'est pas forcément mal.
Non, mais des fois, c'était... avec le recul, je sais que c'était quand même un peu bizarre des fois.
D'accord.
Mais j'arrivais à faire la part des choses, parce que du coup, je ne cherchais pas quelque chose de mystique, je cherchais plus quelque chose d'authentique et puis quelque chose de crédible. Quoi. Mais du coup, j'ai parlé avec pas mal de gens, et notamment avec une personne avec qui on a beaucoup, beaucoup parlé. Et c'est elle qui m'a dit, elle n'était pas de Montpellier, mais elle m'a dit, je connais une église à Montpellier, parce que je connais le pasteur qui fait des conférences à droite, à gauche.
Ouais.
Et donc cette église, elle s'appelle l'église Clé à Montpellier. Et du coup, elle m'a dit, tiens, tu pourrais aller dans cette église, tu verras, peut-être ça va répondre à tes questions, ça va peut-être répondre à ce que tu cherches d'avoir cette relation avec Dieu. Et voilà, donc c'est comme ça que je me suis retrouvé première fois dans une église protestante. Et en effet, cette église, au début, ça ressemblait pas trop à la messe catholique. Donc j'étais un peu surpris. La musique était assez dynamique. Les prêches duraient longtemps.
Oui, oui,
oui,
oui.
Beaucoup plus que les 5-10 minutes.
C'est sûr. Oui, oui.
Du prêtre catholique. Et du coup, ça me nourrissait. À la fois, la musique me nourrissait beaucoup. Je devais me toucher dans mon cœur à travers les chants. Et ce que le pasteur disait, ça me touchait aussi beaucoup. Ça me nourrissait. Ça répondait vraiment à toutes mes questions. Et finalement, c'est là que j'ai commencé vraiment à lire la Bible avec assiduité, avec profondeur.
Ouais.
Et que là, ma vie a commencé vraiment à être chamboulée au quotidien.
Donc là, la dépression, elle s'est
alors, pas
estompée.
Tout de suite, pas tout de suite. Alors, le dimanche, quand j'allais à l'église, j'étais tout fou, tout flamme. J'étais là, je me disais, c'est bon, ma vie a changé, maintenant, je serai toujours dans la joie. Sauf que le lundi matin, quand le réveil sonnait, toutes mes peurs, mon mal-être revenait. Et je me disais, mince, je croyais que ça avait marché hier, mais en fait, ça ne marche pas. Donc, j'ai fait beaucoup le haut et le yo-yo. Et mes émotions... Le yo-yo. J'ai fait beaucoup de yo-yo au niveau des émotions, pardon.
D'accord.
Et du coup, mes émotions, elles allaient très haut et très bas. Et du coup, ça a duré encore quelques mois. Mais en lisant la Bible et en priant, parce que du coup, je priais aussi, j'ai appris aussi un peu comment prier, parce que je priais pas vraiment avant. Et du coup, petit à petit, la paix de Dieu est venue dans mon cœur. Alors au début, c'était le dimanche. Après, c'était peut-être... Il y avait des temps de prière, il y avait des réunions de prière le mardi, donc j'allais aussi... Donc des fois, c'était le mardi, le dimanche. Entre deux, c'était pas glorieux, mais avec le temps, cette paix, elle s'est installée et elle a demeuré dans mon cœur. Et depuis, elle est toujours là. Et du coup, la paix a remplacé la dépression. Après, alors ça a été assez quelques mois, on va dire. Quelques mois. Par contre, après, j'avais beaucoup de phobies, j'avais pas confiance en moi, j'avais beaucoup de peur. Ça a pris un petit peu plus de temps parce qu'il a fallu vraiment que je fasse confiance à ce que Dieu dit dans la Bible et à aussi retrouver l'image, parce que j'avais une très mauvaise image de moi. Et quand je lisais les paroles de Dieu par rapport au fait qu'on est des magnifiques créatures, par rapport au fait qu'on n'est pas le fruit du hasard, que je ne suis pas une erreur de la nature, tout ça. En fait, petit à petit, j'ai commencé à croire ce que Dieu disait plutôt que mes mensonges, les mensonges que j'avais dans ma tête. Et en 6 mois, 9 mois, je ne sais plus exactement, mais en moins d'une année, en fait, j'ai été aussi guéri de beaucoup de phobies, beaucoup de peurs, beaucoup d'anxiété. Parce que moi, je vivais beaucoup avec... j'avais, à la fin, là, avant que je rencontre Dieu, j'avais vraiment des crises de panique. Pas quotidienne, mais très souvent. Mes journées étaient catastrophiques. Je me prenais la tête, je réfléchissais beaucoup. J'analysais tout, je me faisais des films. Enfin, j'étais dans un monde un peu... Je suis devenu dans un monde un peu bizarre. Parce que du coup, je jugeais tous les regards des gens, mes amis, ma famille. Enfin, c'était vraiment compliqué. Je me faisais beaucoup de films. Et j'étais tellement mal dans ma peau que du coup, tout était source d'interprétation.
Et alors, je voudrais poser 2 questions. Mm-hmm. La première, qu'est-ce que vous faisiez professionnellement? Vous étiez en études, vous travailliez?
Voilà, donc j'étais étudiant. J'étais étudiant dans tout ce qui est électronique, robotique. Et j'ai fait des longues études. C'est un peu le seul domaine où ça marchait bien dans ma vie, c'était les études. Et je me raccrochais d'ailleurs à ça pour pas déprimer plus que ça. Donc j'ai fini ingénieur, on va dire. J'ai pas fait d'école d'ingénieur, mais j'ai fait des écoles à la fac. Donc j'ai eu master, tout ça. Et donc c'était vers la fin de mes études justement que j'ai fait cette rencontre avec Dieu.
D'accord. Alors ça, c'était la première question. La deuxième question est plus compliquée. Vous avez dit que vous ne cherchiez pas quelque chose de mystique, et que vous avez commencé à lire la Bible. Alors, comment s'articuler cette rencontre avec Dieu qui est mystique, Et votre désir de cette conversation par la prière, qui est toujours dans l'ordre du mystique, et la découverte de la Bible, qui est de l'ordre théologique. Donc, étudier les textes, faire de l'exégèse, c'est-à-dire de les replacer dans le contexte historique, etc. Mmh. Comment vous avez réussi à articuler les deux? Est-ce que le côté mystique n'a pas trop bloqué le côté intellectuel? Parce que vous êtes quand même un intellectuel, vous avez fait des études, vous avez un niveau intellectuel.
Oui, tout à fait. Alors, ça, c'était plus quand j'étais ado, que à l'école, on apprenait la théorie de l'évolution, tout ça, et puis je me disais, mais du coup, la Bible, elle dit pas ça, parce que je connaissais quand même le béaba de la Bible, et je me disais, alors, du coup, est-ce qu'on est une créature de Dieu? Est-ce qu'on est lié au hasard, à l'évolution, tout ça? Donc, c'est vrai que c'était un peu un casse-tête à l'époque, mais j'avais quand même une foi, on va dire, d'enfant ou d'ado, qui faisait que même si je ne comprenais pas tout, je me disais que Dieu existait, même si je n'en étais pas sûr. Et du coup, même si je ne comprenais pas tout, ça ne me mettait pas en difficulté. Quand j'ai fait cette rencontre, du coup, Dieu est devenu évident. C'est-à-dire qu'avant, je n'étais pas sûr que tout ça ne soit pas juste une histoire, une légende, que la Bible ce soit vraiment la réalité, que ce ne soit pas juste un conte pour enfants ou un conte pour adultes. Mais quand j'ai fait cette rencontre, le jour où j'ai rencontré Dieu dans ma chambre, où Dieu s'est révélé, je ne pouvais plus nier qu'il existait. Donc même si je ne comprenais pas tout, le côté un peu mystique ou le côté dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, des fois, on ne comprend pas tout, même dans la Genèse, tout ça. Mais le fait que j'avais fait cette rencontre, c'est comme si j'avais plus besoin, ça ne venait pas chambouler en fait mes certitudes. Et même aujourd'hui, je ne comprends pas non plus tout, mais pareil, je suis comme un enfant, en fait, qui ne comprend pas tout le monde des grands, on va dire, le monde de Dieu qui est... Mais ça ne me pose pas de soucis.
C'est amusant au niveau de la coïncidence, parce que il y a eu donc le pasteur Luc Pernaud qui a enregistré ici avec moi, dans Thème et Anathème, une conversation sur science et religion. Mm-hmm. Lui est également pasteur et il est aussi scientifique, ingénieur. Mm-hmm. Et alors, c'est une de ses passions que d'articuler, et il explique dans cette émission, donc qui a été diffusée au mois de mars, je crois que ça devait être vers le 6 mars ou quelque chose comme ça, j'ai pas la date en tête, les auditeurs qui sont intéressés peuvent rechercher sur le site, Thème et Anathème, il suffit de taper, et vous le trouverez. Et donc il répond très très bien à ce problème, justement, que l'Ancien Testament parle de certaines choses, mais que c'est pas un livre scientifique, c'est pour parler d'une relation, en fait. Voilà, donc ça, c'était juste une petite parenthèse, parce que c'est un des domaines qui m'intéresse aussi. Et on en a parlé aussi avec un autre physicien, également dans Thème et Anathème, avec André Neveu, qui lui est catholique, et on a développé, ces thèmes. Donc la formation biblique, elle se fait de façon de plus en plus sérieuse, de plus en plus, avec un programme, avec...
C'est ça. Du coup, l'église où j'étais, au début, je n'avais pas projet de faire une formation biblique, mais assez vite, quand j'ai commencé à... c'est l'époque où j'ai commencé à travailler. Donc j'étais dans une entreprise à Saint-Clément-de-Rivière. Et c'est en même temps que j'ai fait que je vivais tout ça. Et je me souviens, la journée, quand je travaillais, j'avais qu'une envie, c'était le soir de rentrer à la maison pour... Bon, j'étais jeune marié aussi. Donc à la fois de retrouver ma femme et à la fois aussi de découvrir ce Dieu de la Bible et de découvrir cette Bible. Et toute la journée, je me disais, mais j'aimerais tellement connaître plus, parce que j'avais une soif vraiment de connaître la parole de Dieu. Et je me souviens, il y avait un combat en moi, parce que la journée, je devais être concentré quand même à ce que je faisais, et j'avais toujours ce désir, comme si j'avais cet amour qui n'était pas vraiment rassasié. Et tous les soirs, j'étais fatigué, un peu paresseux, et tous les soirs, je ne le faisais pas. Je prenais du temps souvent devant la télé ou avec ma femme, et souvent, je ne le faisais pas. Et tous les lendemains, je me disais, mais aujourd'hui, ce soir, c'est sûr, je le ferai. Et donc, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, ça a été un genre de frustration de me dire, j'arrivais pas. Et finalement, j'ai fait quelque chose d'assez radical. Au bout d'un an et demi, que j'arrivais pas à vraiment étudier la Bible à la maison, je me suis dit, il faudrait que je fasse une formation biblique. Donc, c'est un petit peu, je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai démissionné. Je suis parti en voyage missionnaire, parce que je rêvais d'aller en Afrique depuis que j'étais, que j'étais jeune. Et du coup, j'ai embarqué ma femme dans l'histoire. On est parti dans un genre de voyage missionnaire au Burundi pendant 3 mois. Et le but, c'était de pouvoir aussi voir aussi comment d'autres peuples peuvent vivre aussi leur religion, leurs croyances, tout ça. Et c'était vraiment très, très intéressant parce que là, du coup, c'était...
Et c'était dans quel cadre, alors, ce voyage missionnaire
hein? Alors, moi, j'ai demandé à mon pasteur s'il connaissait des endroits où on pourrait aller en Afrique. Donc, il nous en donnait plusieurs pistes. Et notamment, il avait formé, justement, lui, au niveau de la formation biblique, il avait formé d'anciens étudiants à lui, qui étaient devenus pasteurs, et qui étaient partis, justement, après exercer dans leur pays. Donc, il avait, comme ça, fait avec deux, trois pasteurs qui étaient en Afrique. Donc, il nous en donnait plusieurs adresses. Et du coup, on s'est retrouvés dans cette église avec ce pasteur qui avait été formé à l'époque, c'était à Toulouse, en tout cas en France. Et du coup, le but, c'était vraiment d'être immergé dans une église une grande église, parce que, bon, c'est sûr, c'est notre culture là-bas, l'évangile est...
Ça, c'est sûr.
Et beaucoup plus... les gens reçoivent beaucoup plus l'évangile qu'en France. Et du coup, c'était beau de voir aussi comment Dieu a consolé ce peuple, parce qu'il y a eu le génocide aussi, au Rwanda.
Oui.
Et de voir l'œuvre de Dieu dans ce pays, c'était juste incroyable. Et quand les gens, ils nous disaient vraiment qu'ils avaient la foi, et que moi, je voyais ma foi, ma petite foi d'Européen, je me disais, mais est-ce que vraiment, moi, j'ai la foi? Parce qu'ils avaient vécu des choses affreuses. Et ils montraient leur amour pour Dieu et comment Dieu avait changé leur vie. Et tout, voilà, leur engagement pour Dieu. Et moi, je me disais, est-ce que vraiment, je suis croyant quand je les voyais? Donc, c'était 3 mois assez intenses et extraordinaires. Finalement, on n'a pas fait grand-chose, mais on a un petit peu aidé, mais on n'a pas fait grand-chose. Mais c'est là que j'ai commencé, par correspondance, à un peu étudier, à faire cette formation biblique. Et quand je suis rentré... c'est là que j'ai fait une formation, on va dire, à mi-temps, on va dire, dans l'église, avec d'autres étudiants. Et ça a duré pendant une année et demie, 2 années, à mi-temps. Donc, c'était pas du plein temps, mais c'était quand même assez intensif.
Eh bien, on va faire une pause musicale et puis on va revenir après parce que vous avez parlé de votre mariage. Mmh. Je vais vous poser des questions peut-être un peu plus indiscrètes pour demander D'accord. comment tout ça s'est articulé.
Super.
Alors, on fait une pause musicale maintenant.
Nobody but yours.
Christ has no. Are the feet with which he walks. Yours are the hands with which he blesses all the world. Yours are the hands.
Olivier, pour son témoignage sur son parcours de jeune catholique devenu protestant évangélique, donc à la suite de problèmes de dépression. Mmh. Et donc, vous avez parlé de votre mariage. Mmh. Donc, vous avez parlé de votre femme. De, mmh. Vous aviez envie de retrouver votre femme le soir, ce qu'on peut comprendre. Votre épouse, elle était dans le même problème que vous ou elle mmh. était...
Non, alors, ce qui est rigolo, c'est que tout à l'heure, j'ai mentionné le fait que j'ai discuté avec des gens sur Internet. Et parmi les gens avec qui j'ai discuté, il y avait mon épouse qui s'appelle Marisa. Et du coup, assez vite, on a accroché parce que du coup, il y a une amitié qui s'est créée. Et moi, du coup, je voulais justement rencontrer des gens qui connaissaient Dieu. Et elle, elle connaissait Dieu.
D'accord.
Donc elle était, alors elle est suissesse. Et elle était du coup dans une église aussi évangélique en Suisse.
Ouais.
Moi, je connaissais pas du tout. Hein. Moi, je connaissais les protestants, je connaissais de nom, mais je connaissais. Alors du coup, les évangéliques, je connaissais pas du tout. Et du coup, quand on a commencé à parler. En fait, elle, on parlait de beaucoup de choses, on parlait beaucoup de Dieu. Et ça, pendant des semaines et des semaines, on avait des petits rituels. Le vendredi soir, on parlait des fois toute la soirée, toute la nuit, même après en semaine, tout ça. Et vraiment, il y avait quelque chose parce qu'elle sentait qu'il y avait une soif en moi. Et finalement, ce qui est drôle, c'est que, bon, après, du coup, on s'est rencontrés, tout ça. Et finalement, c'est après elle qui est devenue ma femme aussi. Donc c'est drôle parce que c'était moi, je cherchais Dieu, comme je dis souvent.
Et j'ai rencontré vous avez trouvé
l'amour et à la fois j'ai rencontré Dieu en même temps.
Ah bah c'est génial. c'est super. Et alors donc vous devenez pasteur.
Alors pas au début, donc ça a été.
Oui, bah il faut faire.
Voilà. J'ai fait la formation.
Voilà, il faut faire être.
Voilà. Après au début j'ai ce qu'on appelle pasteur jeunesse, pasteur des ouais. étudiants. J'ai ouais. fait ça pendant 7-8 ans, je pense, quelque chose comme ça.
Ouais.
Et après à la fin de mon mandat, on va dire, je me suis occupé beaucoup plus de l'église en général, pas que des étudiants. Donc je faisais des rendez-vous pastoraux, tout ça pendant plusieurs années. Et finalement, c'est à la fin de toutes ces années-là que j'ai été nommé pasteur. Et ce qui est drôle, c'est que quand j'ai été nommé pasteur, c'est là que j'ai commencé aussi en prison.
Oui, donc, du alors coup, pourquoi la voilà. prison?
Ah, alors justement...
Est-ce que le fait que vous étiez emprisonné d'une certaine façon pendant un moment dans votre dépression, mm-hmm. est-ce que vous avez senti une forme de communication avec les gens qui étaient emprisonnés physiquement?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que oui, comme je suis passé par des moments de prison, on peut dire vraiment ça, c'était vraiment une prison. Du coup, je me suis toujours intéressé à ceux qui souffrent, beaucoup ouais. plus, je pense, que peut-être d'autres qui ne sont pas passés par là. Et du coup, les gens, finalement, moi à l'époque, j'étais pas rejeté, je souffrais, enfin, j'étais pas quelqu'un, parce que personne ne voyait que j'étais dans ce mal-être. Mais par contre, je ressentais une profonde solitude, une profonde angoisse, tout ça. Donc les gens, finalement, qui sont rejetés ou les gens qui souffrent, ça m'a toujours préoccupé. Et c'est vrai que quand je priais à l'époque, parce que quand j'étais impliqué dans l'église, je trouvais ça super, mais le Seigneur me disait, il y a plus, il y a autre chose, et je ne savais pas trop quoi. Et quand je priais, en fait, je sentais comme si Dieu me disait, mais c'est bien que tu puisses t'occuper des gens qui sont un peu repoussants, alors pas repoussants dans le sens,
oui.
mais des gens qu'on repousse, qu'on rejette,
oui, oui.
des gens qu'on ne va pas spontanément vers eux. Et j'ai dit, ok, alors, parce que ça me touchait, c'est vrai, de par mon parcours,
ouais.
mais je ne savais pas qui, quand, comment, où.
Oui.
Donc, du coup, j'ai réfléchi qui sont les personnes dans la société qui sont mises en marge. Donc, j'ai fait une liste sur une feuille, je me souviens très bien. Donc, il y avait notamment, par exemple, les étrangers, les immigrés,
oui.
les personnes seules, les personnes peut-être qui sont isolées dans des EHPAD ou tout ça, des personnes qui sont aussi en dépression, des personnes qui sont peut-être dans la rue, des personnes en situation de prostitution. Et il y avait aussi, bien sûr, les prisonniers. Et donc, ça faisait partie de toute une liste que j'avais mise sur une feuille. Et après, j'ai dit, moi, je ne sais pas, mais Seigneur, toi, tu sais. Donc, j'ai prié pour savoir vers quel public je devais aller. Et là, j'en ai parlé déjà avec mon pasteur, qui connaissait un aumônier qui s'appelle Daniel Musso, qui est très connu.
Il vient tout à l'heure enregistrer.
Ah, c'est rigolo. Je vais le croiser, du coup.
Voilà.
Voilà, donc du coup, j'ai rencontré Daniel, qui lui était aumônier depuis 15 ans à l'époque. Et du coup, il m'a pris un peu sous son aile. Il m'a dit, écoute, si tu veux, on va se rencontrer. Je vais te présenter un peu l'aumônerie. Et finalement, ça a duré plusieurs mois. Et de fil en aiguille, finalement, je suis devenu aumônier. Et j'ai pris sa suite, on va dire. Il m'a introduit pendant une année et demie. Et quand il a arrêté, parce qu'il a pris sa retraite, c'est moi qui l'ai remplacé, on pourrait dire.
On va en parler, mais je voudrais faire une réflexion. La liste que vous venez de donner de tous les gens qui sont... repoussants, c'est-à-dire qu'ils sont en fait en situation d'être repoussés, c'est impressionnant. Quand on voit tous les gens qui souffrent, tous les gens qui sont plus ou moins à l'écart de la société. Et alors, il y a quelque chose qu'on m'a dit souvent ici à ce micro, des gens qui ne sont pas protestants, et qui disent « j'ai été très étonné par le degré d'engagement des protestants. Mmh. C'est-à-dire, et c'est vrai, quand on réfléchit, le protestant en général s'engage. Mmh, il y en a qui restent comme ça, juste à fréquenter le dimanche en consommateur, le culte, mais il y en a peu. Et finalement, votre implication montre la même chose. Ouais. Et tous ces domaines-là, cette liste,
c'est... C'est vrai. Et d'ailleurs, je trouve que c'est... Moi, avant d'aller en prison, je ne réalisais pas, parce que moi, j'étais quand même beaucoup dans l'église. Et quand je suis allé en prison, du coup, je suis un peu sorti du cadre de l'église, et je le désire d'ailleurs. Et j'ai découvert à quel point notre foi, elle est riche pour aider les autres. Et à l'époque, je le connaissais, hein, parce qu'on connaît les paroles de Jésus, tout ça. Donc, mais je le connaissais en théorie, mais je ne le connaissais pas en pratique. Et ça, c'est vraiment un encouragement pour moi, et je le dis à tous ceux que je rencontre, tous les chrétiens, tous les protestants que je rencontre, je leur dis qu'ils ont un rôle à jouer dans la société, mais ils n'imaginent pas à quel point ils sont vraiment une lumière pour la société. Parce que, en fait, quand je suis arrivé en prison, moi, je me sentais comme un petit bonhomme qui ne pouvait pas faire grand-chose par rapport à tous les défis de tous les détenus que je rencontrais. Et pourtant, eh ben, Dieu m'utilisait. Alors, il m'utilisait, il faisait des choses au travers de moi, mais pourtant, ce petit bonhomme qui, finalement, qui est comme n'importe qui, bah, le fait qu'il y ait cette foi, le fait qu'il y ait cette espérance, le fait de connaître le Seigneur, eh ben, ça déplace des montagnes qu'on ne peut même pas imaginer. Et en fait, on a quelque chose en nous, on a une espérance que les gens n'ont pas forcément. Et cette espérance, c'est une force, c'est un trésor incroyable. Et là, bah, tous les croyants, tous les protestants, on a cette force que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur n'ont pas forcément. Et ça, quand on leur partage, des fois, ils n'ont pas forcément la foi, mais on va dire, écoute, toi, tu n'as peut-être pas la foi, mais moi, j'ai la foi pour toi. Et j'ai la foi pour que ton problème, je sais que Dieu, il entend ton problème et je vais prier pour ton problème. Et les gens, ils sont touchés déjà par ces paroles. Et quand on prie pour eux, quand on prend soin d'eux, qu'on y croit des fois à leur place, bah, Dieu fait des choses. Et ça, c'est magnifique.
Et votre profession, alors, vous avez abandonné ou vous êtes...
Oui, alors, quand je suis parti, du coup, dans cette mission en Afrique, après, j'ai fait la formation biblique. Et quand j'ai fini ma formation, je me suis dit, bon, il faut que je reprenne un travail.
Oui.
Et entre-temps, quand je faisais ma formation, je faisais quand même des petits boulots, je faisais des livraisons. Et quand j'ai dû, du coup, reprendre un travail, j'ai demandé à Dieu qu'est-ce que je peux faire. Parce que je ne voulais plus trop être ingénieur, parce que ça ne me plaisait plus trop, finalement. Je voulais faire un métier plus relationnel.
Oui.
Et je ne savais pas trop quoi faire. Et ça aussi, ça a été une des plus belles prières que Dieu a exaucées dans ma vie. C'est que je voulais à la fois être engagé dans l'église et à la fois, je voulais, bien sûr, travailler.
Ma famille, quand même, oui.
Et là, j'ai vraiment reçu dans la prière que je devais faire des cours de soutien scolaire. C'est pas un domaine que j'exerçais du tout.
Ouais.
Et du coup, quand ça m'est venu, j'ai pas compris. Bon, bref. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré une autre personne qui avait justement une société qui faisait des soutiens, des cours particuliers. Et du coup, j'ai été amené à faire ça. Et j'ai fait ça pendant 16 ans. Donc, j'ai monté...
Donc, avez été prof de...
Voilà, en fait, j'ai monté ma propre structure de cours de soutien scolaire. Et j'étais prof de maths pendant 16 ans. Et du coup, j'ai embauché aussi d'autres personnes qui ont travaillé, des profs de physique, des profs de français, tout ça. Et en fait, ça a très bien marché pendant très longtemps. Et du coup, ça m'a épanoui aussi parce que j'étais avec des ados. J'aime beaucoup être avec les ados. Et à la fois, je faisais des cours de maths. Mais comme c'était des cours particuliers, du coup, il y avait le côté aussi où je pouvais les encourager. Je pouvais être un peu le grand frère. Et j'ai beaucoup aimé ça parce que c'était aussi un temps où je pouvais aussi encourager les jeunes. Et c'était vraiment super.
Et après, donc, vous avez continué ou
En même temps, j'ai commencé. Donc, je faisais des cours quand j'ai commencé la prison. Et après, faire les deux, c'était compliqué, parce que du coup, je m'impliquais de plus en plus en prison. Pour dire, en prison, j'y vais 5 fois par semaine.
Ah oui.
Alors, j'y vais pas la journée en entier, hein. J'y vais plutôt les après-midi, parce que le matin, c'est compliqué en prison, il y a beaucoup de gens qui dorment.
Ouais.
Le rythme en prison est assez spécial, on va dire. Donc, j'y vais plutôt les après-midi, et du coup, comme ça a augmenté dans mon agenda, bah, j'ai diminué mon activité professionnelle, et aujourd'hui, j'en fais pratiquement plus.
D'accord. Mmh. Mais vous arrivez à vivre parce que l'aumônerie de prison, c'est bénévole.
Alors, c'est bénévole, tout à fait. Donc, du coup, ça s'est fait progressivement. Ma femme était aussi très impliquée dans l'église. Et bon, du coup, elle n'était pas bénévole, mais elle avait un petit quelque chose, mais c'était pas grand-chose. Et du coup, moi, quand je travaillais, du coup, c'était plus moi qui avais des revenus. Et puis elle qui avait moins de revenus. Et finalement, la courbe a changé. C'est-à-dire qu'elle a augmenté.
Bon, d'accord.
En plus, maintenant, elle travaille en Suisse. En télétravail, donc les salaires suisses, voilà.
Ça aide, voilà. Ça, c'est sûr.
C'est ça. Du coup, bah, les courbes se sont croisées. D'accord. Et aujourd'hui, bah, c'est elle qui a la majorité, qui ramène même pratiquement tout le salaire.
D'accord.
Et moi, je suis bénévole en prison, du coup.
D'accord.
Et je suis soutenu par ma femme.
Ah ben, bah, c'est très bien. Ah ben, bah, ça, je... J'admire, j'approuve et j'applaudis. Alors, on va terminer, on a encore 5 minutes. Mm-hmm. On va terminer sur votre... Sur vos professions de foi, les textes qui vous guident. Alors, vous m'avez parlé donc bien sûr de Jésus, mm-hmm. des psaumes. Mm-hmm. Donc, on peut commencer par les paroles de Jésus dans Marc 2:17. Donc, Jésus qui avait entendu leur déclara. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mmh. mais les malades. Mmh. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs.
Amen. Oui, alors ce passage, il me touche beaucoup. En fait, si je devais résumer ma mission en prison, c'est vraiment ce que j'ai découvert en prison. C'est que ça paraît un peu cliché de dire ça, mais Jésus, il vient vraiment pour ceux qui souffrent. Il vient vraiment. Alors quand il a marqué les pécheurs, c'est pas parce que c'est des plus gros pécheurs que nous, c'est surtout, c'est des plus gros pécheurs que nous, sans doute, mais c'est surtout parce que c'est des gens qui sont plus en souffrance, peut-être que, enfin, en tout cas, il y a beaucoup de souffrance en prison. Et Jésus, il vient là où il y a la souffrance. Et souvent, la souffrance est aussi liée au péché, bien sûr. Et j'ai tellement vu comment Jésus, il prend soin de ses détenus. J'ai tellement vu comment, quand on fait des cultes dimanche matin, de voir à quel point Jésus vient guérir les cœurs, à quel point il vient donner l'espérance à tous ces gens qui sont en pleine souffrance. Et ça m'a bouleversé, parce que je connaissais ce verset depuis des années, mais là, je l'ai vraiment vu en application, comme si c'est pas juste des mots, c'est pas juste un concept, mais Jésus, il est vraiment là pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui sont des gros pécheurs aussi. Et Jésus vient pardonner, ou permet le pardon, même dans des crimes atroces ou des choses horribles. Et son amour est plus grand que tous les délits, que toutes les catastrophes que les hommes peuvent accomplir. Et ça, j'en suis vraiment un témoin en prison. Et ça me chamboule.
Oui, mais quand vous dites Jésus vient, en fait, Jésus vient par votre intermédiaire. Voilà, parce que c'est vous qui amenez les paroles de Jésus. Alors, c'est vous qui amenez même la présence de Jésus.
Alors souvent, c'est nous. Mais j'ai vu des cas où Dieu s'est débrouillé tout seul sans nous, où en fait Dieu se sert d'autres détenus, se sert même des fois juste la personne en cellule aussi, elle peut, comme je l'ai vécu. Alors c'est pas le plus courant, mais ça peut arriver, des gens qui ont dit je voulais aussi me suicider et j'ai crié à Dieu, et Dieu est venu il m'a sorti de tout ça. Alors c'est pas le plus courant, mais ça arrive aussi de temps en temps, et on se dit en fait on est des témoins de ce que Dieu fait. On partage la parole en prison, mais il y a aussi des fois où Dieu se débrouille tout à fait sans nous. Mais c'est vrai que le fait d'avoir des cultes, le fait d'avoir des groupes de parole bibliques où on peut annoncer la bonne nouvelle, on peut parler, lire l'évangile avec les détenus, c'est vrai que ça change leur cœur, d'être aussi des témoins, de dire que pour nous aussi ça a changé notre vie.
Ça rejoint la parole de Romains 12, 15 que vous citez, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Mm-hmm. Donc ça, c'est ce que vous faites mm-hmm. dans toute votre vie, en prison. Mm-hmm. Et puis finalement, pour arriver au psaume 34, le psaume 34 qui est lié aux prières des mm-hmm. détenus. Donc ceux qui regardent vers lui brillent de joie, mm-hmm. le Seigneur entend, il sauve de tout ce qui fait peur. Là, c'est vraiment un condensé de votre vie.
C'est vrai. C'est vrai que quand un malheureux, comme le dit le psaume, quand un malheureux crie, le Seigneur l'entend. Et ça, je suis vraiment témoin pour ma propre vie, mais je le vois beaucoup en prison. Et c'est vrai que de pleurer avec ceux qui pleurent et de rire avec ceux qui rient, finalement, c'est ça, en fait, le partage. Et quand on va dans les cellules, c'est ce qu'on fait. Au début, on écoute les témoignages bouleversants des détenus. On pleure avec eux. On ne peut pas leur taper sur le dos, leur dire sur l'épaule, leur dire « t'inquiète pas, ça va aller, ça n'aurait pas de sens ». Donc là, on a juste les yeux pour pleurer, on a juste les yeux pour les prendre dans les bras. On ne peut pas faire grand-chose. Et à la fois, quand il y a des restaurations, des bonnes nouvelles, à la fois, on peut rire aussi avec eux, des bonnes choses qui se passent aussi pour eux.
Eh bien, je vous remercie, Olivier Vilbrun. Alors, je signale aux auditeurs que nous avons parallèlement des émissions donc sur l'aumônerie de prison, donc spécifiques, ces émissions auront lieu une fois tous les deux mois. Voilà. Et pour le reste, eh bien, je dis merci beaucoup de votre témoignage.
Merci Hollande, merci beaucoup.
Et puis, merci à nos auditeurs. N'hésitez pas vos réactions à un protestant peut en cacher un autre, @radiofmplus.org. À la semaine prochaine. Au revoir.
Protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.